Salut les amis et bienvenue sur le quatrième épisode déjà d'Original Sound Bloggers, l'émission sur les musiques de jeux et tout ce qui s'ensuit, avec des thèmes divers et variés et toujours super intenses. Et en l'occurrence, cette semaine, le thème c'est le violon. Le violon, instrument majeur de la musique classique qui nous emporte et qui nous fait voyager à travers des horizons différents. Et pour en parler de ce violon, nous sommes comme chaque mois en compagnie de nos amis Mister Rockpsy95 et Onink. Comment ça va les gars?
Yo.
Salut. Bah écoute, moi ça va. Hein. Bon, j'ai chopé une crève, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Je suis aussi en pleine période de révision, je raterai un épisode d'OSB pour rien au monde, donc je suis content d'être parmi vous.
La fidélité, la dévouance. Le dévouement plutôt, on dit. Le dévouement.
Plus de l'amour, je pense.
Voilà. Notre invité ce mois-ci, c'est Jonah. Comment ça va, Jonah?
Ça va, merci. Et merci de m'avoir invité, surtout.
Mais y a pas de problème. Première femme invitée sur OSB. Toi, je crois que t'as fait un petit peu de violon, justement, quand t'étais plus jeune.
Oui, j'en ai fait pendant 4 ans, mais c'était il y a longtemps, donc...
Tu pourras quand même nous parler aussi bien de cet instrument magique qui nous fait autant vibrer que le violon. Et pour commencer ce podcast, vous entendez en fond... Le jeu du moment, ça peut pas être autrement, Bioshock Infinite, sorti il y a un mois, hein, le 26 mars. Vous y avez joué les gars à Bioshock Infinite ou pas encore?
Non, pas encore, mais je pense que bon, sur Gameblog tout le monde est au courant que c'est un jeu majeur parce qu'on a eu des statuts sur Bioshock à peu près toutes les heures. C'était vraiment le jeu à pas rater en mars, je pense, et c'est mérité parce que quand on voit la direction artistique, la musique, le scénario, enfin tout, quoi, ça se comprend très largement.
Jonah, Bioshock Infinite ou Bioshock Infinite plutôt?
j'ai pas eu le temps d'y jouer encore, malheureusement.
Ouais, pareil, moi aussi, je compte y jouer, mais faut que je finisse ma pile de jeux d'abord, qui est assez conséquente.
Bon, on est tous dans le même cas, c'est bien. On entend la pièce du thème d'Elisabeth en fond, et pour rester justement dans cet esprit Bioshock, on va écouter en premier morceau, un morceau donc du tout premier Bioshock, sorti en août 2007. Alors les musiques de l'un comme de l'autre hein, sont de Gary Shiman, on n'a pas trop su comment prononcer cette émission, donc on va dire Shiman. Donc un morceau qui s'appelle Welcome to Rapture, qui peut nous en parler?
Ben, je me dévoue si tu veux. Donc c'est le morceau culte de Bioshock, hein, Welcome to Rapture. C'est même la séquence culte du jeu, hein, c'est quand on arrive en bathysphère, on descend doucement. Et puis là, juste à travers le hublot, on voit la ville et on a justement les envolées de violon qui crissent, qui sont hyper inquiétantes, qui nous accompagnent. Et puis ça pose directement l'ambiance et ça vous dit, voilà, Bioshock, c'est pas un FPS comme les autres. C'est un FPS qui a une direction artistique de dingue et qui, plus que chercher le réalisme, va utiliser le FPS pour vous immerger totalement dans un univers absolument dingue. Moi, c'est ce qui m'a donné envie d'y jouer, hein. Même si je suis allergique au gameplay, donc du coup, j'y joue pas.
Bouh.
Sinon,
c'est pas une bonne excuse, ça. Ah. Il faut y jouer.
Un jeu dans lequel t'aimes pas le gameplay, pour y jouer, c'est un peu compliqué, quand même.
Ouais, mais là, c'est plus qu'un FPS. Au pire, tu le mets en mode facile et ça passe tout seul.
Ouais, mais non, même pas.
Oh là là. Voilà, bah donc, écoutez, après cette petite introduction de Victor... Welcome to Rapture, donc le morceau un peu phare de la BO de Bioshock 1, et on se retrouve tout de suite après sur OSB. Thank you. vous écoutez toujours Original Sound Bloggers, toujours sur cette thématique du violon, et donc ce thème de BioShock, Welcome to Rapture, un thème très très sombre, le violon avec ses gros trémolos vient marquer une ambiance très très inquiétante en début de jeu. Et on va maintenant reparler, parce qu'on en a déjà parlé dans un précédent podcast, de World of Warcraft, plus précisément l'extension Wrath of the Lich King. Alors, donc c'est Jonah, notre invité, qui nous a proposé cette musique, Angrathar's Shadow, qu'on entend donc en fond. Jonah, pourquoi t'as choisi cette musique, toi en particulier ?
C'est vraiment une des musiques qui m'avait le plus marqué dans l'extension, en fait. Et bon, malheureusement, il y a beaucoup de gens à WoW qui jouent en coupant la musique. C'est dommage parce que c'est vraiment une des qualités du jeu. Bon, là, je m'adresse à Oning puisque c'est nous deux qui connaissons un peu le jeu. Mais quand on entre dans la Désolation des Dragons et la Couronne de Glace, donc c'est la région dans laquelle on entend la musique, c'est vraiment très prenant. C'est vraiment dans l'ambiance et je j'irai souvent dans cette région rien que pour la musique, en fait. Dès que vous m'avez dit violon, j'ai tout de suite pensé à celle-là, et voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est une des musiques marquantes de l'extension. On l'entend, comme tu l'as dit, dans la zone de la Couronne de Glace, donc la zone de toute fin de jeu de l'extension. Un désert de glace qui abrite l'imposante forteresse du roi Lich, donc le boss final emblématique de toute la saga, qu'on avait déjà vu dans Warcraft 3, hein, qui possède, je trouve, une histoire assez touchante, même si, bon, déjà vu plein de fois. Coucou Star Wars, ceux qui ont fait le jeu comprendront. Donc cette musique illustre, je trouve, super bien l'aspect malsain de cette zone de jeu sous l'emprise du fléau mort-vivant, donc les serviteurs du roi Lich. Donc, c'est un thème pesant, assez angoissant, mais une musique qui en fait quand même pas des tonnes, qui reste assez sobre. Et pareil, j'ai pu l'écouter des centaines de fois, vu le temps que j'ai passé dans cette zone, que ce soit juste pour écouter la musique ou à récolter des plantes ou attendre mon groupe avant d'entrer dans l'instance de la Couronne de Glace, qui est une des dernières instances du jeu.
Pour les 3000 quêtes journalières aussi.
Ouais.
Un peu trop même, mais bon. Ça fait...
Ben justement, on a oublié de préciser d'ailleurs la première partie du plan quand même, parce qu'on a un plan comme d'habitude. Ben là, la première partie, c'était sur les musiques angoissantes justement, c'est-à-dire les violons qui sont vachement crissants et qui font un peu flipper. Et moi, quand je l'ai écoutée, je l'ai trouvée vachement malsaine, cette musique un peu.
Ah, carrément.
Vraiment oppressante, quoi.
Ouais, bah, elle va super bien avec la zone qui est super sombre et toute dévastée. Du coup,
c'est aussi l'endroit, pour ceux qui connaissent un peu Warcraft, c'est le portail du Kourou, c'est là où il y a le roi Lich qui fait son entrée et tout ça.
Ça fait un peu calme avant la tempête, on va dire, comme musique.
Voilà.
Exactement ça. Donc bah écoutez, continuons dans cette lignée de violons inquiétants, angoissants, qui nous inspirent un peu la crainte d'avancer dans le jeu finalement, avec un jeu que je ne connaissais absolument pas jusqu'à ce que notre ami Victor nous en parle. The Path, donc un jeu d'aventure sorti en 2009 sur PC, revisitant l'histoire du petit chaperon rouge dans un aspect plus sombre et mature. Qui a joué à The Path ?
Bah moi.
Du coup oui, fatalement.
C'est un peu une aventure horreur en fait. Ben, si vous voulez des précisions, demandez à Snake parce que Snake est ultra fan de jeu. Et en fait, ouais, donc c'est un jeu qui revisite un peu le petit chaperon rouge. Donc vous avez des petites filles un peu émo gothiques. Vous avez donc une histoire par fille et vous avez un grand chemin et vous avez une consigne, restez sur le chemin. Donc forcément, si tu restes sur le chemin, tu vas à la maison et t'as la mauvaise fin parce que ça finit super mal, je vais pas vous dire ce qui arrive. Et donc le but en fait, c'est de transgresser l'interdit et de partir dans la forêt alentour. Et en fait, The Path, c'est pas vraiment un jeu, c'est plus une expérience artistique en fait. C'est une expérience visuelle, c'est-à-dire que on va errer dans cette forêt sans savoir vraiment quoi y faire. Puis on va tomber sur des fantômes, sur des petites filles, sur des zones hyper insolites. Donc on va se balader comme ça pendant des heures et puis on va découvrir un peu tout cet univers visuel hyper particulier. Et graphiquement, même si techniquement c'est pas super élaboré, y a vraiment une touche artistique qui est hyper forte. Et le son crée aussi une ambiance absolument énorme, quoi. C'est-à-dire que dans la musique que vous écoutez, voilà, il y a les pas, il y a ces violons hyper qui crissent, qui sont hyper inquiétants. Et toute la BO qui a été composée par deux inconnus qui s'appellent Jarbo et Chris Force est vraiment excellente. Donc je vous conseille de l'écouter, elle est vraiment excellente cette BO.
Alors là je te coupe parce que inconnu, non c'est pas vrai. Jarbo c'est une artiste qui est très 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 connue justement dans ce monde-là, un peu... pas goth, mais un métal industriel, hard rock industriel, un petit peu gothique sur les bords.
Ouais, mais toi t'es métalleux.
Oui, moi oui peut-être. Mais c'est quelqu'un qui est très reconnu dans ce milieu-là et qui est quand même qui est connu.
Mais moi je connais pas.
Oui, forcément.
Ouais, mais par contre ils sont inconnus dans le domaine de la composition, des musiques de jeux vidéo, voilà, parce que je crois sûr. Que c'est leur premier travaux.
Ah oui, ce sont des artistes pas de jeux vidéo à la base. Hein.
Ouais, voilà.
Oui, mais et puis la boîte de développement, enfin ils font vraiment des trucs hyper particuliers, genre leur premier jeu. Vous êtes dans une forêt, vous êtes des cerfs, vous pouvez pas parler, vous pouvez juste bouger, et en fait c'est un jeu multijoueur où vous êtes des cerfs. Comme ça.
Oh, le concept.
C'est Journey version serre, mais sans la beauté visuelle.
Bon, sur cette magnifique digression et sur magnifique métaphore de la nature et de la place du cerf dans l'écosystème humain, Fey Wolf, donc un morceau de la BO de The Path, et on se retrouve tout de suite après. The Pass, composé donc par Jarbo ou par Chris Force, hein, c'est forcément un des deux. Donc vous écoutez toujours OSB sur le violon. Bon, moi je sais pas vous, j'en ai un petit peu marre de l'inquiétude, de l'angoisse. Ça va 5 minutes, hein, on a peur, mais quand est-ce qu'on pleure? Quand est-ce que le violon nous fait pleurer? Et c'est là toute la force du violon, c'est de pouvoir nous transmettre cette émotion, cette tristesse, parler de la tragédie comme ça. Et justement, donc on va entamer cette deuxième partie de podcast sur l'émotion et sur la tristesse en écoutant en fond le thème principal de Max Payne 3, sorti l'an dernier en mai sur PS3, Xbox 360 et PC. Je crois que parmi vous, personne n'a joué à Max Payne 3, si je me trompe pas.
Non.
Non,
non plus.
Et ben voilà. Donc, que dire dessus? Ben, les musiques sont de Pedro Bronfman, ainsi que du rappeur brésilien Emicida et du groupe de noise rock Hulse. Donc ça a l'air assez varié, mais j'ai pas écouté plus que ce thème principal.
Ouais, bah moi j'ai écouté à peu près l'ensemble de l'OST, qui est assez classique dans l'ensemble. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on commence très fort cette partie consacrée au violon tragique, parce que Max Payne, ça doit être un des personnages de jeux vidéo les plus torturés, les plus dépressifs, à qui il arrive des tas de merde dans la vie. Donc là, ce thème colle parfaitement avec le personnage, donc c'est 100% violon, 100% tragique, mélancolique. Pour rappel, C'est le thème principal des deux premiers Max Payne, qui a été réarrangé pour l'occasion, pour le troisième épisode, par le groupe Else. Donc voilà, c'est assez classique, mais qui fonctionne bien.
Et donc, pour élargir cette thématique donc d'émotion et de tristesse, on va parler d'un jeu que je vous conseille de ne pas me spoiler pendant qu'on discute, car sinon ça va très mal se passer.
Et pas dans les commentaires non plus.
Pas dans les commentaires non plus, car je suis en train de le terminer, j'en suis à 12 sur 16 de Colosse, puisqu'on va parler de Shadow of the Colossus. Donc on va écouter un thème qui s'appelle Demise of the Ritual, qui est un thème de combat donc contre les colosses, il y en a plusieurs. Un jeu sorti sur PS2 en 2006, les musiques sont de Kou Otani. Parlez-moi messieurs de Shadow of the Colossus et madame aussi, enfin mademoiselle.
Et c'est un chef-d'œuvre. C'est un putain de chef-d'œuvre. Bon bah Fumito Ueda, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que au niveau des réalisateurs de jeux vidéo, il se pose là quand même. Même si on attend toujours The Last Guardian et qu'il va m'énerver parce qu'il va sortir sur PS4 alors que moi j'avais acheté la PS3 pour ce jeu-là.
Hein. Dans le même cas que toi. Hein.
Non, Shadow of the Colossus c'est une merveille. Artistiquement, c'est une bombe. Graphiquement, c'est pour l'époque, c'était à tomber. Même s'il y avait des baisses de FPS parce que ça poussait la console trop dans ses retranchements.
Ah, c'est vrai que la version PS2 rame considérablement. Ouais.
La musique, elle baisse jamais d'intensité, enfin, elle est toujours au top. La fin est extraordinaire. Voilà, c'est une merveille ce jeu.
Bah écoutez, je vous propose qu'on écoute donc cette musique, Demise of the Ritual, et qu'on en parle un petit peu après pour donner nos impressions. Allez, à tout de suite. Ambiance très très sombre et très très triste pour cette musique de Shadow of the Colossus, Demise of the Ritual sur OSB. Donc je crois que tout le monde a un petit peu envie d'en parler de ce jeu que vous avez, je crois, tous trouvé assez exceptionnel.
Comment faire sans trop spoiler sans vouloir entrer dans la pensée qui dit qu'il faut aimer Shadow of the Colossus, en même temps c'est vraiment un très bon jeu. Et voilà, et ce thème en particulier, c'est vrai qu'il arrive à un moment du jeu vraiment fort et c'est assez frustrant de ne pas pouvoir tout dire, mais bon, c'est...
Oui, mais chut.
Voilà, bref, par contre, là, voilà.
On va même dire à quel moment on l'entend, c'est pas vraiment un spoil.
Non, mais bon, disons que c'est un moment du jeu où, voilà, où le joueur se rend compte de certaines choses, même s'il pouvait s'en douter un peu, mais bon, de le voir avec cette musique, tout ça, et puis les chœurs qu'il y a, enfin... Les chœurs sont vraiment puissants, enfin, puissants dans l'intensité, pas dans la force de la voix, hein, mais...
Ouais.
Ah, c'est vrai qu'il y a cette arrivée de l'orgue aussi qui vient titiller un petit peu. Rien qu'en écoutant la musique, on se dit c'est vraiment on est à un enterrement quoi.
Et pourtant je l'ai fait assez récemment par rapport à sa sortie. Hein. Je crois que je l'ai fait l'année dernière. Et voilà, et à chaque fois, ça, je l'ai fait qu'une seule fois, et pourtant la première réécoute, j'ai toujours les frissons quand je l'entends, donc voilà.
Et on se demande pourquoi Kotani a pas fait d'autres choses dans le jeu vidéo, parce que.
Ouais, ça c'est vraiment dommage.
La magnificence de la BO de Shadow of the Colossus, on se dit, c'est dommage qu'il fasse de la série, quoi.
On prie pour son retour dans The Last Guardian.
On prie pour la sortie de The Last Guardian.
déjà, ça serait pas mal.
On va maintenant parler d'un jeu qui a été développé par une boîte dont on va parler plusieurs fois au cours de ce podcast. The Last Story, un action RPG de Mistwalker, sorti en France en février 2012 sur la Wii, au Japon un an plus tôt. Donc on va en reparler beaucoup de Mistwalker parce qu'il y a plusieurs morceaux qu'on va écouter de jeux issus de chez eux. Et le même compositeur aussi qu'on va écouter plusieurs fois, c'est Nobuo Uematsu, le fameux, le monsieur Final Fantasy. Donc à la musique
très
de
actif en ce moment. Hein.
Mmh, exactement.
Monsieur Final Fantasy jusque PlayStation, disons.
Oui.
Le compositeur de FF13 2 arrive.
Jusqu'à ce que l'immense compositeur de FF13 2... Donc un jeu également qui a été réalisé par le réalisateur donc de Final Fantasy V, hein, donc on retrouve un peu les mêmes personnes. Premier jeu qu'il réalise d'ailleurs depuis FF5. Je crois qu'Onyx, c'est toi qui as joué à The Last Story parmi nous.
Yep, bon, je vais éviter de troller le jeu parce que je sais que pas mal de monde l'apprécie quand même sur Gameblog. Juste dirais que j'ai pas accroché. Donc c'est le troisième jeu de Mistwalker, le studio à l'origine de Blue Dragon et Lost Odyssey, des RPG déjà assez controversés à leur sortie. Moi, personnellement, quand je vois The Last Story, j'ai l'impression qu'il a été prévu à la base sur les consoles HD et ensuite transposé sur Wii. Alors ça, quelqu'un me l'a confirmé sur Gameblog, j'ai oublié son nom, mais vu que j'ai rien trouvé à propos sur Internet, je vous confirme pas vraiment ce point. Bref, donc ça pour moi c'est un problème, car on sent qu'il n'a pas du tout été optimisé pour la console. Donc les environnements, ils fourmillent de détails, il y a plein d'effets, de particules, de lumière, de machins, de conneries. Mais le problème c'est qu'on est sur Wii. Et du coup, ça scintille de partout, ça bave, c'est vraiment... ça pique les yeux. Alors, ok, on s'en fout des graphismes, mais là, franchement, ça devient vraiment gênant, surtout sur un écran plat, dans mon cas. Donc, surtout quand on voit de quoi est capable la Wii avec Xenoblade, Muramasa, Amad World, qui, eux, sont parfaitement regardables, mais là, The Last Story, ça nuit vraiment au plaisir de jeu, et ça va vraiment gâcher le jeu. Après, donc, la direction artistique, elle tue la gueule, mais voilà, c'est gâché par la technique. Donc je vais pas non plus défoncer le jeu parce que les persos sont réussis, ça change de FF13. mais le scénario en lui-même est pas original pour un sou, du moins à l'endroit où j'en suis, ça a toujours pas vraiment décollé.
Ouais, donc on a entendu en fond le thème 1 de The Last Story, une version juste instrumentale au violon d'un morceau qui s'appelle Toberu Mono.
C'est bien dit.
Donc c'est finalement une version un peu plus longue hein, de ce thème 1. Et nous allons continuer dans cette tristesse, dans cette émotion, avec un jeu que moi particulièrement j'ai apprécié sur Nintendo DS, un jeu qui s'appelle Professeur Layton et le Destin Perdu, troisième jeu de la série des Professeur Layton. En anglais c'était Professor Layton and the Unwound Future. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'on va écouter le thème of the Unwound Future, donc le thème principal de Professor Layton et le Destin Perdu. Moi ce qui m'a beaucoup touché dans ce jeu, on va dire, enfin c'est pas vraiment touché, mais ce qui m'a fait plaisir dans ce jeu, c'est qu'on retrouve des doubleurs qui ont des CV absolument monumentaux. Moi j'aime beaucoup, je m'intéresse pas mal au doublage en fait, et ils ont tous des CV assez incroyables, les doubleurs. T'as le doubleur de Jafar dans Aladdin.
Sérieux?
Ah ouais. Il faut aller voir la liste sur Wikipédia, vous tapez Professeur Layton et le Destin Perdu, vous allez avoir la liste des doubleurs, et la liste est juste monumentale. Voilà. Enfin, vous cliquez sur les noms, vous regardez ce qu'ils ont fait les gens, et c'est juste fabuleux. Donc un jeu sorti en France en octobre 2010, on le disait, sur Nintendo DS, des musiques de Tomohito Nishiura, un morceau qui, je crois, Victor, t'as vraiment... Enfin, le Professeur Layton en particulier, toi, c'est un jeu qui te botte.
Ah ouais, moi j'adore. Ça fait partie des jeux, parce que la DS est une console grand public, donc il y a énormément de jeux grand public. Et Layton, c'est vraiment le jeu grand public, mais qui se moque pas de toi, quoi. C'est-à-dire que tu peux le faire jouer à des enfants, comme tu peux le faire jouer à des gens qui connaissent vraiment le jeu vidéo, et ils vont quand même prendre du plaisir, quoi. Moi, je suis absolument fan de la direction artistique de jeu. Je trouve que Au niveau du chara-design, c'est super bien, parce que les personnages sont dessinés très simplement, mais en même temps, ils sont ultra expressifs. C'est-à-dire qu'ils ont tous leur identité propre, et il n'y a pas un personnage qui est pareil, quoi. Du coup, c'est très très bien. Et puis Nishiura, il a vraiment donné une identité musicale hyper forte au jeu. C'est-à-dire que Professeur Layton, c'est violon, accordéon, piano, et voilà, quoi. Et pour les BO, je vous conseille d'écouter les versions live. Le morceau qu'on va vous passer, c'est justement une version live qui sont juste à tomber par terre. Le violon et le violoncelle, quand c'est en version live, c'est quand même autre chose que quand c'est sur une DS, donc ça claque vraiment, quoi.
Vraiment, ce que j'avais beaucoup apprécié sur Professeur Layton, et particulièrement sur Le Destin Perdu, justement, c'était le scénario.
Ah ouais.
C'est truffé d'énigmes, mais même le scénario est énigmatique, et au final, à la fin, on s'en prend plein la tronche.
Même si la fin est pour moi un peu décevante, mais... Ouais,
enfin, bon, on va pas la raconter, mais...
Bon, mais... Bref, mais ouais, voilà, quoi. Mais sinon, c'est vrai que niveau scénario, tous les Layton sont très très bien, quoi. Il y a pas mal de rembaudissements, et si on se disait, ah bah oui, la fin, ça va être comme ça au début du jeu, c'est... On peut rien prévoir, quoi. Et c'est toujours très agréable. Ça.
Donc voilà, le thème de Professeur Layton et Le Destin Perdu, version instrumentale, version orchestrale, version live. On se retrouve tout de suite après pour la suite de OSB épisode 4. Thank you. Original Bloggers, épisode 4 garanti, sans Motoi Sakuraba pour une fois. Voilà, il n'y en aura pas dans cet épisode. C'est suffisamment rare pour être souligné. Par contre, il y a du Yasunori Mitsuda comme le mois précédent avec Chrono Cross, Scars Left by Time. Enfin, il y a plusieurs noms différents qu'on entend en fond. Rien d'autre à dire, messieurs, sur Professeur Layton?
Oui, juste pour souligner que Nishiura Tomito, c'est pas n'importe qui, donc il a fait toutes les musiques des Prof Layton, mais aussi des RPG comme Dark Cloud, Dark Chronicle sur PS2, aussi Rogue Galaxy, ce RPG dans l'espace avec des pirates, qui est l'adaptation d'Albator en jeu vidéo.
D'accord. Adaptation, mais c'est pas un Star Wars, Rogue Galaxy.
Non, Rogue Galaxy, c'est un RPG de level 5. Je sais que j'aurais dû m'abstenir, j'aurais pas dû la faire celle-là.
Voilà. Chrono Cross, Scars Left by Time. Personne n'a joué à Chrono Cross par ici?
J'aimerais bien, mais sortez-le moi sur le PSN européen, mon dieu!
Alors, si je dis pas de bêtises, hein, j'espère qu'il l'a pas encore vendu, je ne sais pas, mais je crois que Monsieur Pomme vend son exemplaire de Chrono Cross. Voilà.
Mais je m'en fous, j'ai pas de PS1 moi.
Eh ben, tu te démerdes, je sais pas. Chrono Cross, hein, la suite de Chrono Trigger avec donc le même compositeur, on l'a dit, Yasunori Mitsuda, jeu de 99 sorti sur PlayStation, malheureusement pas en France. Comme vous pouvez l'entendre, on a quand même un petit peu changé d'ambiance, hein, on a terminé la tristesse, maintenant on est un peu plus dans la joie, on est surtout dans la montée en puissance lyrique, et c'est là que le podcast va continuer, va même se terminer, puisqu'on va enclencher la troisième et dernière partie de ce podcast. Et on va diffuser dans ce sens-là une musique d'un jeu de combat, une fois n'est pas coutume, Soul Calibur 3, un jeu quand même, moi, qui m'a beaucoup fait rigoler à l'époque, enfin Soul Calibur de manière générale en tout cas, pas forcément le 3, mais même Soul Blade sur PS1, Soul Calibur 3 ou les jeux de combat de manière générale, vous, ça vous inspire, oui, non?
Oui, j'ai pas joué à Soul Calibur 3, mais vu que j'ai joué au 2 et au 4, et que ce sont tous des copier-collés, je vais pouvoir en parler un petit peu. Ouais, le 2, ça doit être le meilleur, je pense. Enfin, moi, c'est mon préféré. Donc, Soulka, c'est le représentant du jeu de combat à l'arme blanche. Contrairement au Street, Tekken, Mortal Kombat qui se joue sans arme. Mortal Kombat, je suis pas sûr. Bref. Donc, personnellement, moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette série. C'est-à-dire que chaque personnage a une arme spécifique. Ça peut être une épée, un bâton, une hache, des griffes, n'importe quoi. Et donc, ça fait autant de façons de jouer différentes. Donc il faut pas mal de temps pour maîtriser les personnages, mais paradoxalement on peut aussi s'amuser en étant débutant, c'est-à-dire qu'on peut même battre des PGM juste en spammant certaines attaques qui peuvent pas être évitées.
J'en ai fait la malheureuse expérience.
Ouais, ça fout.
Et récemment sur Soul Calibur 5. Donc ouais. un jeu
souvenir d'un personnage notamment, je crois que c'était Raphaël, tu pouvais niquer l'adversaire juste en utilisant une seule attaque.
C'est pour ça que j'aimais bien ce jeu, parce qu'on pouvait être nul et gagner, donc.
Voilà. En même temps, il est assez technique. Les PGM peuvent s'amuser dessus.
Donc voilà, un jeu de combat sorti sur PS2 en 2005. Et la musique qui a été composée par 3 employés de Namco qui ont également bossé sur les autres Soul Calibur et sur Ace Combat 5 et 6. Alors, je me souviens plus des noms, ils sont 3. Mais en tout cas, ce sont des employés de Namco. Et donc, on va écouter un morceau qui s'appelle Ephemeral Dreams. Alors, moi, j'aime beaucoup les BO de Soul Calibur. Je trouve qu'elles diffèrent énormément d'autres BO de jeux de combat. C'est vraiment limite une BO d'aventure, quoi. C'est très très intense, très classique, ça nous fait beaucoup voyager. Et écoutez, je vous propose de constater si c'est, ce que je dis est vrai ou pas, donc avec ce morceau Ephemeral Dreams. We'll be right back. Ephemeral Dreams, Soul Calibur 3, vous écoutez toujours Original Sound Bloggers, épisode 4, sur le violon. Notre invité, c'est toujours Jonah. Ça va toujours, Jonah ?
Très bien, merci.
Ça se passe bien ? On te stresse pas trop ? On te...
Non, je te traumatise. Je parle pas trop vite.
Non, mais... ça va.
D'accord, tout va bien.
Petite envolée lyrique, petite envolée majestueuse et savoureuse avec une version symphonique d'un jeu dont on a déjà parlé dans le premier podcast, souvenez-vous, Actraiser, ce jeu de Super NES de 1992 en France, des musiques de Yuzo Koshiro, qui ont, on le rappelle, également connu pour Streets of Rage, Is et Shenmue, entre autres.
Entre autres, j'aime bien le entre autres.
Oui, il a fait quasiment que ça, mais on peut dire entre autres, enfin, connu on va dire. Actraiser, on entend la version symphonique de Birth of the People, une pièce qui intervient lors des phases de gestion, donc quand on fait naître finalement le peuple de ces terres où il n'y a au départ personne. C'est Dieu, donc le joueur, qui refait naître les gens et qui leur fait reconstruire les maisons, replanter les plantations. On a Birth of the People, et la deuxième partie de ce medley symphonique, on va dire, reprend un morceau qui s'appelle Sacrifice, qu'on retrouve parfois sous le titre de Offering. Et là, pour le coup, voilà, c'est une ode à Dieu, une pièce qu'on peut apprendre dans le jeu en offrant la harpe aux habitants pour qu'ils expriment leurs souffrances. Donc voilà pour Actraiser, et nous allons parler d'un titre, d'un jeu, et surtout d'une compositrice dont on a parlé, je crois, quasiment tous les podcasts, ou pas loin.
Je crois qu'on l'a mis à chaque fois, je crois.
Il y a des chances, hein, parce que Yoko Shimomura, c'est quand même un nom marquant de la musique de jeu, et je crois qu'on l'a effectivement mis partout.
Il a fait tellement de jeux aussi que...
C'est ça, et tellement de bons jeux, c'est ça le problème, tellement de bonne musique. Donc dans un jeu qui s'appelle cette fois-ci Front Mission, un tactical RPG de Super NES sorti en 95 uniquement au Japon, un jeu de chez Square, qui est passé un peu inaperçu du coup, forcément il n'est pas sorti chez nous. J'imagine que personne n'a joué à Front Mission du coup, si ?
Non.
Négatif.
Non, par contre la BO défonce comme d'habitude. Là, la version qu'on va vous passer, c'est sur l'album Dramatica de Shimomura, donc qui est son best-of orchestral. Et donc, il y a à peu près toutes ses meilleures musiques. Il y a les versions de Kingdom Hearts, de Heroes of Mana, de Legend of Mana, enfin, de Front Mission, justement. Enfin, c'est un album qui est absolument magnifique.
Capturez cet album.
Il n'y a aucune musique achetée dessus.
Il y a le thème de Gail ou pas? Ça va avec tout, on le sait tous.
Non, malheureusement, il n'y est pas.
Ah, merde.
Après du Heroes of Mana, je pense pas que le thème de Gail soit approprié. Voilà.
Pourquoi pas? Ça chevauche, c'est rigolo. En symphonique, ça passerait super bien, je suis sûr. Ça va avec tout.
Oui, oui.
Oui. On va écouter un morceau donc, de Front Mission qui s'appelle Mainfold Irons. Puisqu'on n'a quasiment aucun d'entre nous joué au jeu, je vous propose qu'on écoute la musique et qu'on en parle après pour pouvoir un peu mieux disséquer l'univers de Front Mission. A tout de suite.
Thank you.
Cold Irons Music de Front Mission, un jeu que personne ne connaît ou dont personne n'a joué autour de cette assemblée, donc on en parlera pas plus que ça, à part que la musique version symphonique défonce tout, évidemment, comme à chaque fois avec Shimomura. On va passer donc à la suite de ce podcast avec Odin Sphere, que vous entendez en fond, une version orchestrale du thème principal d'Odin Sphere, musique d'un artiste ou d'un collectif d'artistes, je ne sais pas, qui s'appelle Basiscape. Donc un action RPG de VanillaWare, donc connu pour Muramasa entre autres récemment, sorti sur PS2 en France en 2008. Odin Sphere, qui y a joué, qui n'y a pas joué, VanillaWare, oui, non, peu importe.
Oui.
Je pense pas.
J'ai pas joué, mais par contre VanillaWare, on connaît, parce que on a tous les trois joué à Muramasa et on sait que VanillaWare niveau graphisme, inspiration aquarelle, il maîtrise. Odin Sphere, c'est un jeu qui est absolument magnifique hein, graphiquement, surtout pour de la PS2. Qui reprend un peu toute la mythologie nordique, donc c'est pas super banal dans l'univers du jeu vidéo, donc ça a le mérite d'être des paysans. La BO défonce, elle a été faite par Sakimoto, donc le compositeur fétiche de notre ami Yonik.
Yes.
Voilà.
D'ailleurs, dit aussi Sakimoto, j'ai l'impression qu'on en parle à tous les podcasts. Hein. À peu près aussi. Comme Shuomura.
Au final, oui, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent.
Ouais, non, mais forcément. Et justement, là, avant d'enregistrer, on est allé voir un peu le nouveau jeu de VanillaWare. Donc on va en parler un peu parce que c'est très drôle.
Dragon Crown.
Bon, qui c'est qu'on parle ?
Écoutez, si vous voulez, moi je viens de le découvrir hein, absolument il y a un quart d'heure, on en parlait entre deux enregistrements de pistes, donc je peux en parler puisque je viens de découvrir
c'est
ça.
C'est des terrains chocs, hein, si vous
voilà, donc, ah, donc Dragon Crown, nouveau jeu de VanillaWare qui n'est pas encore sorti, et j'avoue que la direction artistique, le chara-design m'a légèrement surpris. On se retrouve avec des espèces de travelots qui ont des seins énormes, qui ont des cuisses encore plus grosses. On comprend pas trop bien ce qui se passe. Plein de symboles phalliques de partout. Là, pour le coup, Marlar, elle serait bien triste.
Non, mais ça fait peur. Hein.
On se demande comment ils en sont arrivés là, quoi. Là, tu regardes surtout leur précédent jeu, même sur PS1, ils avaient fait...
C'est une dérision, comme vous disiez tout à l'heure. Ou...
Ouais, voilà.
C'est un peu affligeant, je suis un peu sans voix, en fait, quand j'ai vu ça. J'étais... Ah, oh.
Ne comprends pas.
On vous renvoie à un article du gamer aux mains carrées, hein, de Lead, sur un magnifique cosplay de Dragon Crown.
Très sexy.
Très 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 sexy. Et on va, pour le coup, passer à la suite, Blue Dragon. Blue Dragon RPG sorti sur Xbox 360 en 2007. Musique de quelqu'un dont on n'a pas encore trop parlé, un certain Nobuo Uematsu, n'est-ce pas ?
Inconnu au bataillon.
Inconnu, hein. Donc le jeu a bénéficié d'une adaptation en animé, figurez-vous, il y a eu deux saisons de Blue Dragon en animé. Un chara-design pareil, d'un illustre inconnu qui s'appelle Akira Toriyama.
Monsieur... Il a fait Dragon Ball, je crois.
Dragon Ball, voilà, Chrono Trigger. Blue Dragon, est-ce que, messieurs, ça vous parle ? On va écouter le thème de la version symphonique de Waterside.
Non, j'ai pas joué. Mais donc la version qu'on va écouter là, c'est la version violon donc de l'album Symphonic Odysseys. Voilà, donc c'est arrangé par Jonne Valtonen, je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, donc c'est assez extraordinaire, je trouve. C'est pour ça que je vous l'avais proposé en fait, c'est que ça voilà, ça s'envole de partout, c'est fantastique.
D'ailleurs, juste voilà, j'ai sous les yeux là, en regardant la vidéo qui correspond à l'extrait de Blue Dragon, je constate qu'en fait ça a été enregistré, donc cet album Symphonic Odysseys, par l'orchestre de Cologne, qui est assez cher à mon cœur puisqu'ils ont fait déjà, au-delà de Symphonic Odysseys, un album qui s'appelait Symphonic Fantasies, que j'avais offert à Monsieur Pomme grâce à un concours et... Donc il reprenait, donc là, Symphonic Odysseys, c'est un tribute à... C'est un hommage à Nobuo Uematsu, et ce Symphonic Fantasy, c'était un hommage à Square Enix, en l'occurrence, il y avait des pièces d'un quart d'heure sur Kingdom Hearts, Secret of Mana, Final Fantasy, Chrono Trigger, Chrono Cross, et donc là, voilà, je remarque à peine ça, donc c'est... Du coup, là, ça en devient cher à mon cœur, et il va falloir que j'écoute Symphonic Odysseys, que je ne connaissais pas.
Je pense que la Lost Odyssey, la suite donc, enfin ce qu'ils appellent la suite, c'est, ça dure 20 minutes, c'est par rapport au musique du jeu, comme son nom l'indique, est assez exceptionnel. Donc voilà, je recommande vivement à quiconque ne l'a pas écouté de l'écouter dans les plus brefs délais.
Mais écoutez, justement, on va l'écouter, cette pièce de. En tout cas, un extrait de la pièce de Blue Dragon, donc un morceau qui s'appelle Waterside, version symphonique par l'orchestre de Cologne. Et on parlera après d'un jeu dont Jonah vient à peine de parler, puisqu'il s'agit de Lost Odyssey. À tout de suite. suite et fin d'OSB épisode 4, voilà, et oui, c'est déjà la fin, ça fait un petit moment qu'on est en compagnie de notre invité Jonah. Blue Dragon Waterside, donc on vient d'écouter à l'instant, et on va parler, pour terminer, on écoute en fond le thème principal d'un jeu qui s'appelle Lost Odyssey, et donc on en parlait il y a pas plus de 5 minutes. Deuxième RPG du studio Mistwalker, sorti sur Xbox 360 en 2008, avec un certain, encore une fois, Uematsu à la musique. Donc c'est un peu la suite de... C'est le jeu qui est apparu après Blue Dragon, au final. Personne n'a joué, je crois, à Lost Odyssey.
Non, pas moi.
Non plus. On m'a jamais donné envie, en fait.
Mais en plus, 360...
Ouais, donne envie, mais j'ai pas 360.
Voilà, ouais.
Pour terminer ce podcast, on a décidé... Parce qu'en fait, on s'est dit... Quand même, ce serait dommage, on parle tout le temps des mêmes choses qui reviennent un petit peu. On a notre petite habitude, un Final Fantasy par podcast, on n'a pas mis de Final Fantasy. Et ben, on va terminer par Final Fantasy 11, un morceau qui s'appelle Ronfort, et je crois que Jonah a beaucoup de choses à nous dire sur cette musique, Ronfort.
Bah oui, j'avais proposé quand vous m'avez dit en volée lyrique, la première chose à laquelle j'ai pensé, effectivement, c'était Ronfort, donc je n'ai pas joué à Final Fantasy 11. Mais bon, voilà, ça m'empêche pas d'apprécier sa musique. Et donc voilà, donc en fait, cette piste qu'on va écouter, c'est donc la version de Distant Worlds, l'album Distant Worlds 2. Et la piste elle-même est reprise du Tour de Japon de 2004. Voilà. Il faut saluer l'arrangeur surtout, hein, Shiro Hamaguchi et Kenichiro Fukui, entre autres. Donc voilà, c'est grâce à eux qu'on écoute ça en version symphonique et c'est splendide.
Et ça, ouais, voilà. C'est vraiment magnifique.
Il y a eu plusieurs versions, mais celle originale est très très bonne aussi. Hein. J'aime beaucoup celle-là aussi.
D'ailleurs, l'OST de FF11, elle n'est pas aussi réputée que celle des autres épisodes. Elle est un peu moins connue, malheureusement. Mais
c'est
je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment des super morceaux dans cette BO. Je pense tout de suite au thème d'introduction, Memoro de Lastono, qui est vraiment magnifique. T'as un thème, le thème Distant World, je crois que c'est le thème de fin.
Awakening.
Ouais.
Je pense que le fait que ce soit un FF online, ça a peut-être dû crisper des gens, je pense, ça a dû freiner des gens.
Effectivement.
Mais même en général, dans les FF, les fans sont assez sélectifs, ils ont tendance à passer ça aux oubliettes des BO qui devraient pas, quoi.
Ou des jeux.
Surtout pour les concerts symphoniques, généralement ils zappent des morceaux et des jeux pour en privilégier d'autres, et c'est pas forcément judicieux.
En plus, pour le coup, c'est de Uematsu, donc bon, les fans inconditionnels du compositeur de reconnaître, mais bon, c'est vrai que FF11, moins connu.
Dommage.
Et bien, justement, mettons-nous à connaître cette BO de FF11, Ronfort, pour terminer ce podcast. Merci encore, comme tous les mois, à mes collègues Onink et Mr. Roxy95 d'être là, d'être présent. J'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde. Merci encore à Jonah, notre invité, d'être venu.
Merci à vous.
Et on se donne rendez-vous pour le 5e épisode qui aura lieu donc fin mai. On vous laisse encore en suspens le thème. On vous laissera la surprise quand il sortira. Donc c'est fini pour ce 4e épisode sur le violon. Et on se dit donc à dans un mois, à très bientôt. Normalement, je dis bien normalement, OSB devrait arriver sur iTunes incessamment sous peu, donc restez
connectés.
La technologie, c'est beau.
Technologie, tu comprends pas.
C'est pas grave.
Excuse-moi.
Donc on se retrouve dans un mois, et d'ici là, portez-vous bien. Salut les gars, salut tout le monde.
Bye.
Ciao.